Nous allons lire dans le livre de Jean. Au chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Nous commençons par le verset 53. On peut même commencer par le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. C'est Jésus qui parle. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus lui leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Que Dieu soit béni. Alors nous vivons une scène très difficile pour les disciples de Jésus et pour les gens qui écoutaient Jésus. Jésus se permet de dire qu'il faut le manger et boire son sang. Et si on ne le fait pas, on n'ira pas au ciel. On n'aura pas la vie éternelle. Et beaucoup de disciples disent, c'est une parole dure, c'est difficile. Comment il peut dire des choses comme ça? Et par la suite, plusieurs des disciples l'ont abandonné et il n'est resté que pratiquement avec les 12. Et il leur dit, mais pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Ils disent, nous on a cru une fois pour toutes. On sait que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous de toute façon? Qui a des paroles comme toi? C'est vrai, nous sommes troublés. C'est vrai, nous sommes embêtés, comme on dit. C'est vrai, nous sommes dérangés. Mais on n'a pas vu quelqu'un comme toi, nulle part. quelqu'un qui ne pêche pas, quelqu'un qui dit des choses exactes, quelqu'un qui multiplie les pains, quelqu'un qui parle de Dieu avec précision comme tu en parles. On n'en a pas vu. Quelqu'un qui soit si désintéressé, on n'en a pas vu. Notre raisonnement est bloqué. On l'avoue, mais notre cœur nous dit que c'est toi le Messie. Les paroles que tu as sorties depuis que nous sommes avec toi nous montrent que c'est toi qui es le Messie. Il n'y en a point d'autre. C'est ça, bien-aimé, qui a fait que les disciples, les apôtres, les douze sont restés avec Jésus. Ils ont dit, nous avons déjà fait le tour de la question. Tu es le seul qui attaque le mal vraiment à 100%. On discutait avec les bien-aimés le matin. On a parlé de certaines personnes qui semblent être assoiffées de justice. Il y en a qui défendent des baleines. Il y en a qu'on appelle Greenpeace qui défendent contre le nucléaire. Ils semblent être assoiffés de justice, de vérité. Il y en a qui se disent des opposants politiques. Il y a d'autres qui sont des grands poètes qui revendiquent les droits de l'humain. Mais ces gens-là ont des grosses limites. Parce que vous allez voir, certains d'entre eux ont deux ou trois femmes, deux ou trois maîtresses. Eux qui défendent la justice, mais ils sont en train de faire souffrir une femme. Eux qui défendent la justice, ils sont en train de faire souffrir des enfants. Ils se retrouvent sans père. On a parlé de Bob Marley, quelqu'un qui semblait défendre la justice, mais lui-même avait plusieurs concubines. Est-ce qu'il ne faisait pas souffrir sa femme? Il faisait souffrir sa femme. Est-ce que pour des enfants, c'est bien de voir son père mourir à 36 ans à cause du cannabis ou de la drogue? Est-ce que c'est bien pour un enfant? Est-ce que cet homme-là n'a pas fait souffrir ses enfants? Il a fait souffrir ses enfants. Il est mort à 36 ans à cause de la drogue. Quel est cet enfant qui va être heureux que son père meure à 36 ans? Mais ce sont des gens, quand tu entendais leur discours, c'est pour la vérité, pour la justice. Mais eux-mêmes avaient des problèmes à pratiquer. Mais Jésus lui-même a pratiqué. Et il a dit dans Jean 8, 46, « Qui peut me convaincre du péché ?» Bien-aimés, examinons clairement la personne de Jésus. Nos cœurs vont nous dire, c'est lui l'envoyé de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un comme lui ailleurs. Les apôtres ont dit, où irions-nous? Alors, ma prédication de ce soir, c'est quoi? C'est de nous attacher à ce qu'on a reçu une fois pour toutes à travers la parole de Dieu. De ne pas nous attacher au raisonnement. Attention, à un moment donné, nos raisonnements vont connaître leurs limites. Quelqu'un qui veut vraiment suivre Jésus-Christ devra reconnaître la défaite des raisonnements. S'il ne reconnaît pas la défaite du raisonnement, il ne peut pas suivre Jésus. Ces gens-là ont beau réfléchir, ils ne trouvaient pas comment, de quel droit, ou bien selon quelle loi, ils devraient couper Jésus-Christ et le manger et boire son sang. Ils ont beau réfléchir, ils ont dit, mais c'est quoi? Mais Jésus dit dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Donc pour les comprendre, il faut que l'Esprit Saint te l'explique. Leurs raisonnements ont connu leurs limites. Dans la vie chrétienne, nous nous laissons vite aller dans les raisonnements comme les humains normaux. Et souvent, ça a conduit beaucoup de gens à leur perte. Mon exhortation, c'est que nous revenions à marcher par la foi et l'obéissance. Avec Dieu, c'est la foi et l'obéissance qui comptent. Avec Dieu, c'est le départ que tu dois analyser. Quand tu veux aller, quand tu veux démarrer, c'est là que tu dois réfléchir. Est-ce que c'est vraiment le véritable Dieu? Tu as tout le loisir de réfléchir. Tu as tout le loisir de te poser des questions. Mais les réponses sont là. Qui est comme Jésus? Personne. Qui a été parfait comme Jésus? Personne. Qui a multiplié le pain? Personne. Seul Jésus a multiplié le pain à ce niveau-là. Qui a calmé la tempête? Qui a ressuscité les morts? Qui est ressuscité lui-même? Seul Jésus-Christ a vaincu la mort. La réponse est là. Il est le seul qui puisse nous amener au ciel. Parce que lui-même, il est monté au ciel. Il est venu du ciel, il est remonté au ciel. Donc il connaît l'endroit, il connaît l'itinéraire. Il est le seul qui a vaincu la mort. Parce que le destin de tout homme, c'est mourir. Or, lui a vaincu la mort. Donc il est le seul qui puisse nous promettre les choses éternelles. La réponse est là. Mais lorsqu'on est têtu, lorsqu'on est esclave dans les raisonnements, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à se mettre en obstacle avec cela. Et ces raisonnements-là vont nous amener à l'échec. On ne peut pas servir Dieu réellement si on est tributaire, dépendant des raisonnements humains. Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce qui est écrit. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il ne peut les connaître. Bien aimé, c'est clair. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais vous allez me dire, mais comment quelqu'un se convertirait alors si l'homme naturel ne peut pas saisir les choses de Dieu? Comment quelqu'un va se convertir? C'est qu'à un moment donné de sa vie, Dieu va lui rendre claires les choses. À un moment de sa vie, il va voir comme pendant le jour. Mais tous les autres moments, il est comme dans le noir. Jusqu'à ce que Dieu l'éclaire, lui montre clairement que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. D'une manière claire. Et là, il est dans l'obligation de s'humilier et de saisir. S'il ne saisit pas, le flou revient. Et un jour encore, Dieu lui montre d'une manière claire les choses. S'il ne saisit pas, il continue à s'endurcir et à devenir de plus en plus méchant. Et un jour encore, Dieu lui montre les choses d'une manière très claire. Jusqu'à ce qu'un jour, la voix de Dieu va s'éteindre pour lui. Et c'est les ténèbres à jamais. Alors mon conseil, est-ce que Dieu s'est révélé à toi d'une manière claire? Qu'est-ce que tu as fait de cette révélation? Aujourd'hui, le conseil, c'est de saisir cette révélation, qui est la Bible. Et de marcher avec Dieu. Non pas par le raisonnement, mais par la foi et l'obéissance. Une fois pour toutes, crois en Jésus. Il a démontré qu'il était fils de Dieu et Dieu dans toute sa vie. Aujourd'hui, la Bible nous est parvenue. Est-ce que vous savez combien de gens sont morts pour garder la Bible? Il y en a qu'on a brûlé. Les Bibles ont été brûlées. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, il permet qu'aujourd'hui, on ait toujours la Bible. C'est la preuve qu'il est tout-puissant. Qu'est-ce que tu choisis? Tes raisonnements ou la réalité? La réalité, c'est que Dieu existe. Et cette voix, nous l'entendons tous dans notre cœur. Parce que si Dieu n'existait pas, pourquoi tous ces gens le combattent? Pourquoi tous ces gens qui écrivent des livres pour montrer que Dieu n'existe pas? Pourquoi, quand on devient chrétien, les païens nous détestent? Pourquoi, puisque Dieu n'existe pas? Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on déteste parce qu'il suit lui de finesse. Mais dès que tu suis Jésus, on commence à te détester. Je n'ai jamais vu qu'on déteste quelqu'un parce qu'il supporte, il soutiendrait Johnny Hallyday. Mais quand tu commences à suivre Jésus, les gens commencent à te détester. Les gens commencent à te combattre. Mais si Dieu n'existe pas, pourquoi on combat des gens qui suivent Dieu? Alors qu'on ne combat pas des gens qui suivent des gens vivants, qui sont visibles. Dieu existe. C'est pourquoi on combat les gens qui le suivent. qu'est-ce qui font qu'on les combat? C'est qu'il y a une autre créature, une autre entité qui existe, c'est le diable. Lui, il est dans les autres pour combattre ceux qui suivent Dieu. C'est ça la réalité. On a beau fuir, ça c'est une réalité. Mais dès qu'on a saisi ça, et on s'est donné à Jésus, parce qu'on a compris qu'il était Dieu, bien-aimé, tes raisonnements ne t'en servent que lorsque Dieu s'en sert. N'utilise plus tes raisonnements pour comprendre Dieu. Un jour, tu bloqueras. Un jour, tu bloqueras. Un jour, ça s'arrêtera. Et là, ça s'est arrêté pour ces gens-là. Ça s'est arrêté. Jésus a dit, il faut me manger. Ils ont dit, là, on arrête de le suivre. Et vous voyez la méchanceté des raisonnements. C'est que leur raisonnement ne les a pas conduits à dire, mais tiens, mais il a fait quand même beaucoup de miracles. Tiens, il est bon, il est droit. Mais intéressons-nous, demandons des explications. Non, leur raisonnement les a conduits juste à s'éloigner de Jésus. C'est ça la méchanceté des raisonnements. Les raisonnements montrent quelque part que l'homme qui décide de ne pas suivre Dieu, il est arrivé au bout de sa divinité personnelle. C'est-à-dire que l'homme, c'est quoi Dieu? Et parfois, quand même, il veut suivre Dieu. En réalité, c'est lui qui entraîne Dieu. Viens, je vais t'expliquer comment être Dieu. Je vais te donner quelques conseils comment être mon Dieu. À un certain moment, Dieu lui dit, non, moi je suis Dieu. Je suis au-dessus de toi. Il faut me manger. Oh! Là, c'est le point où l'homme, entre Dieu et l'homme, Dieu marque la différence. C'est moi qui suis Dieu, toi tu es homme. Tu ne peux pas me circonscrire. Tu ne peux pas me cerner. Vous savez, on peut faire les additions de nombres de 1 à 20. Tous, on peut retenir ça. 20 plus 5, 25. 20 plus 3, 20. Mais à un moment donné, Dieu va te donner un calcul où tu vas lâcher. Une situation va arriver dans ta vie où tu seras obligé de choisir entre le Dieu que tu te crois être, parce que tu mènes tout par tes raisonnements, ou de choisir le Dieu en qui tu as cru un jour. Cette exaltation, maintenant je suis passé à la phase des chrétiens. Un jour, à un moment donné, on est obligé de choisir. Tu confirmes que tu crois en Dieu ou tu lâches, parce que c'est devenu chaud, parce que tes raisonnements sont au bout. Là, leur raisonnement était au bout. Saül, Dieu lui dit, je vais te donner la victoire. Mais quand tu auras la victoire, tu tues tout le monde. Et les humains, et les hommes, tu tues tout, et les animaux. Oh. Saül dit, mais je ne comprends pas. Mais au début, il dit oui, pas de problème plutôt. Maintenant, dès qu'il a la victoire, les questions commencent. Oh, je ne veux pas tuer quand même tous les animaux. Et quand on dit tuer, ça ne veut pas dire tuer seulement et manger, non. Dévouer par interdit. Donc tu tues et tu brûles, tu élimines, donc tu n'utilises pas. C'est ça dévouer par interdit. Tu tues et tu n'utilises pas. Alors, quand il a gagné la guerre, c'est là qu'il commence à regarder, oh, des belles vaches comme ça. On ne va pas quand même les éliminer. Des belles brebis comme ça. On ne va pas quand même. Le raisonnement vient. Mais Dieu a dit qu'il fallait éliminer tout. Le raisonnement vient. Tu dis, mais non, ce n'est pas logique. C'est ce que Dieu dit, me demande de faire. Et ce raisonnement qui est ingrat et méchant te fait oublier que cette victoire t'a été promise par Dieu. Te fait oublier que si tu as gagné, c'est grâce à Dieu. Te fait oublier qu'un jour, Saül, toi, tu n'étais pas roi. Tu étais un citoyen normal, qui est un jeune homme qui allait chercher l'âne de son père qui s'était égaré. Et Dieu t'a pris de cette situation-là pour faire de toi roi. Le raisonnement nous oublie de te dire tous ces détails-là pour te concentrer seulement sur le fait qui sort en réalité ton orgueil. En quelque sorte, c'est les gens orgueilleux qui finissent par choisir leur raisonnement. Ils décident, c'est comme s'ils disent, enfin, j'ai trouvé la faille chez Dieu. C'est un faux Dieu, j'arrête là. C'est comme si, dans leur vie, il y a toujours eu un combat vis-à-vis de Dieu, mais ils n'ont jamais trouvé de faille. Et un jour, ils vont prouver qu'ils n'étaient pas soumis à Dieu en prenant le choix de suivre leur raisonnement. Et bien aimé, je ne dis pas que c'est facile. Mais Dieu va nous mener jusqu'à ce niveau-là où c'est très difficile. Où Jésus-Christ lui-même a transpiré des gouttes de sang. Parce qu'il était confronté à choisir entre son raisonnement qui lui disait « mais il était innocent ». Son raisonnement lui disait « tu es innocent ». Pourquoi souffres-tu ainsi? C'est quand même injuste. Son raisonnement lui disait, mais non, tu ne peux pas quand même, toi, le prince des cieux, laisser les démons te maltraiter comme ils le font, laisser les humains te cracher dessus. Son raisonnement était là fort. Surtout le mot innocent, innocent. Combien de fois nous, on s'est fâché parce qu'on se sentait innocent et qu'il y a des malheurs qui tombent sur nous. On se sent bon. Mais s'il y a des blocages, on se sent correct. Combien de fois dans notre cœur, il n'y a pas eu une sorte de rébellion? Quand tu vois ton enfant qui tombe malade d'une manière grave, tu ne comprends pas. Mais tu dis, mais l'enfant est innocent. Seigneur, il fallait m'atteindre moi. Il faut laisser l'enfant tranquille. Quand tu vois des guerres et tu vois des enfants, quand j'étais en Israël, j'ai vu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont tellement souffert qu'il y avait une image, le guide a failli pleurer. C'est un costaud cet homme-là, un ancien colonel. On arrive là, il a dit, cette scène me dérange toujours. Donc, il avait envie de pleurer, un homme costaud, dur. C'est une scène d'un enfant, une fille qui était là debout et son petit frère mort dans les ghettos. Le guide, il dit, quand j'arrive ici, je suis bloqué. Le raisonnement le bloque. Comment Dieu, bon, peut-il accepter de telles scènes? C'est son raisonnement. Et il ne croit pas en Dieu. Parce qu'il a laissé son raisonnement l'emporter sur l'évidence de Dieu. On ne peut pas saisir les choses de Dieu par le raisonnement. Si tu utilises le raisonnement, l'orgueil fera que le raisonnement gagnera. Ton raisonnement te trouvera toujours quelque chose. Parce que ton raisonnement est soutenu en ce moment-là par l'orgueil. Ton raisonnement est soutenu en ce moment-là par la méchanceté qui est dans nous, nous les humains. Nous sommes mauvais. Et à un moment donné, cette méchanceté se manifeste contre Dieu. Et à travers le raisonnement. Quand on leur dit, mais monsieur, mais Dieu vous a donné après la terre d'Israël. Ah oui, mais on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de souffrir. Donc, c'est une manière de dire quoi? On aurait préféré être étranger sans ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans avoir des terres. Donc, leur raisonnement, leur refus de ce qu'ils ont vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, les conduit à ne plus croire en Dieu. Ils oublient comment Dieu aussi a mis beaucoup de gens pour les aider. Est-ce que l'État d'Israël existerait sans Dieu? Non. Ils oublient dans l'histoire aussi de cette guerre-là comment Dieu les a aidés d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui est dans un camp de concentration, avec une souffrance que je ne peux pas vous expliquer, s'est converti à Dieu, l'autre réunit Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque part un raisonnement qui a tué l'un et l'autre s'est humilié pour accepter l'évidence de Dieu. Vous savez, la Bible commence par au commencement Dieu. Pour dire quoi? Croire en Dieu n'est pas le fruit d'une logique. C'est un don. Dieu se rend clair à toi et tu crois. C'est pourquoi la Bible commence directement au commencement Dieu. Si on parlait de Dieu au 10e chapitre ou au 20e chapitre, ça serait comme pour dire, quand tu as lu le 20 chapitre, après tu peux comprendre que Dieu existe. Non. La Bible considère l'existence de Dieu comme évidente et normale. Donc, mais cachée aux hommes à cause du péché. Mais un jour, Dieu se rend clair. Et quand il se rend clair, il existe. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu le reconnais qu'il existe. Et dès que tu ne le vois pas comme tu l'as vu ce jour-là, tu ne reconnais plus. Et tu... non, il faut une fois pour toutes choisir. Et les apôtres ont dit, nous, Seigneur, nous avons compris que tu es le Dieu véritable. Nous avons compris que tu es le Fils de Dieu. Les paroles que tu nous as dites nous ont convaincus. Tu t'es rendu clair à nous et on a cru en toi. Bien-aimé, est-ce que quand tu es dans un avion, il y a des moments où tu sais que tu es dans un avion. Mais il y a des moments, il n'y a rien qui puisse te dire que tu es dans un avion, sauf que ta tête dit que tu es dans un avion. Et maintenant, imagine que tu dises, mais les fauteuils sont tellement grands ici, j'ai l'impression d'être dans un car, je vais descendre. Mais qui va te laisser descendre? Personne. Tu sais que tu es dans un avion. Même s'il n'y a rien qui prouve, parce que la façon dont les avions sont faits à l'intérieur, ça ressemble aussi à des cars. Donc, à un certain moment, tu sais seulement dans ta tête que tu es dans l'avion. Tu ne regardes pas par le hublot. Tu sais que tu es monté dans un avion, tu n'en es pas descendu. C'est tout. Est-ce que tu cherches des preuves en allant regarder à travers le hublot pour savoir que tu es en l'air, pour voir les nuages? Tu sais que tu es dans l'avion. Tu es dans, en train de manger, tu sais que tu es dans l'avion. Il n'y a pas d'autre preuve que ce que tu as dans ta tête. Je suis monté dans un avion et je ne suis pas descendu. Si tu veux parler de fauteuils, les fauteuils peuvent être les fauteuils d'un car. Ça peut être aussi le fauteuil d'un train. Mais tu es convaincu que tu es monté et tu n'es pas descendu, donc tu es dans un avion. Ton raisonnement tient du fait que tu es entré dans l'avion, tu n'es pas descendu, c'est tout. Mais tu n'es pas là à dire, tiens, je ne vois pas les nuages, je ne vois pas le ciel. Parfois on est la nuit, on ne voit rien du tout. Mais tu sais que tu es dans un avion. C'est la même chose avec Dieu. Un jour nous avons cru. Dieu s'est rendu évident à nous. Nous savons qu'il est Dieu. Il existe. Et tant que nous serons soumis, tant que nous aurons cette foi-là, cette évidence continuera. Quand on regardera les cieux, on dira Dieu existe. Quand on regardera les arbres, on reconnaîtra son existence. Mais maintenant, celui qui n'a pas, celui qui considère que son raisonnement est son chef, celui-là, il a beau regarder le ciel, il a beau regarder les arbres, il a beau regarder les catastrophes climatiques, il trouvera toujours un argument produit par son raisonnement pour renier Dieu. Il est écrit dans Apocalypse que Dieu va faire même il va envoyer des catastrophes graves sur la terre, mais les gens, au lieu de se repentir, trouveront en cela toujours une occasion de dire que Dieu est mauvais. Au lieu de dire, mais tiens, nous sommes dépassés par la nature, c'est que le Créateur est au-dessus de nous. Non, ils trouveront une occasion pour dire, mais qui est ce Créateur-là qui permet de telles catastrophes? Il est mauvais. Voilà. Donc, leur raisonnement ira toujours dans le sens de satisfaire leur orgueil. Mais sachez bien, aimés, que nous tous, nous continuons à être des chairs, même si nous devenons chrétiens. Donc, notre raisonnement, c'est à nous de le tuer. Mais il est toujours là, disponible. Et il va nous arriver des événements où le raisonnement viendra nous proposer de renier Dieu. Où le raisonnement viendra mettre une limite à notre service pour le Seigneur. Va nous bloquer. Ce jour-là, ces bien-aimés-là étaient bloqués. Ils n'ont pas pu suivre Jésus-Christ. Ils se sont arrêtés. Voilà. Vous savez, on s'arrête de plusieurs manières. On ne s'arrête pas toujours de la même manière. Ne pensez pas que beaucoup vont s'arrêter en disant « Je ne suis plus Jésus ». Beaucoup même vont s'arrêter en disant je veux suivre Jésus, mais autrement. Mais c'est autrement-là, ce n'est plus suivre Jésus. Parce qu'ils sont sortis de la voie de Dieu. Beaucoup vont dire, je veux suivre Jésus, mais je divorce d'abord. Ils ne suivent plus Jésus. Ils ont décidé de divorcer d'abord, ensuite de suivre Jésus. Donc, c'est des gens qui ne suivent plus Jésus. Il ne faut pas croire que nous tous, les gens verront Jésus, dit bon, comme ils vivront cette scène qu'on a lue, en disant, bon moi, il a dit qu'on doit le manger, moi, je ne veux plus le manger. Moi, je n'ai pas envie d'être cannibale, je m'en vais. Non, tout le monde ne vivra pas cette scène. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, beaucoup de gens qui se disent avoir la foi vont renier, ne vont plus suivre Jésus, mais ça ne se passera pas comme ça. Il y aura une façon toujours. Il y en a qui vont dire, moi je n'irai plus dans les églises. Mais ils prétendent qu'ils vont toujours suivre Jésus, mais ils n'iront jamais plus dans une église. Bon, Jésus lui dit dans sa parole, l'église c'est le corps du Christ, c'est son corps. Quand tu dis tu n'iras plus dans une église, ben, tu vas suivre qui maintenant? Puisque Jésus, lui, dit que c'est l'église, c'est son corps. Qui est cet enfant qui va dire, je ne verrai plus mes frères et sœurs. Je resterai seul à suivre mon papa. Oh, le papa dira, mais non, ça ne se passe pas comme ça dans notre famille. Donc on mange ensemble, on travaille ensemble. Beaucoup vont arrêter de suivre Jésus, mais pas de cette manière dont on vient de lire, qui est très évidente. Il y en a qui vont le faire d'une manière qui n'est pas évidente, mais c'est toujours s'arrêter. Il y en a qui vont décider que la médecine est supérieure à Dieu. Ils ne vont plus prier pour des guérisons de maladies. Beaucoup de gens vont arrêter de suivre le Seigneur parce qu'à un moment donné, leur raisonnement les a rattrapés. Bien-aimés, nous subissons tous des difficultés, mais ces difficultés sont permises par Dieu pour faire en sorte que la foi et l'obéissance soient toujours au-dessus du raisonnement. La foi et l'obéissance. Saül s'est arrêté. Et nous connaissons tous la sanction de Saül. Lorsque Samuel a vu ça, il a dit, Saül, c'est fini. Tu ne seras plus roi. Dieu a déjà trouvé quelqu'un d'autre. C'est fini. Et beaucoup, leur ministère s'est arrêté. Parce qu'à un moment donné de leur vie, leur raisonnement a été supérieur à l'obéissance et à la foi. Saül a dit non, moi je ne peux pas éliminer, décimer des belles vaches comme ça, des belles brebis. Je les garde. Samuel vient, il dit Saül, mais pourquoi tu as fait de telles choses? Il dit non, j'ai gardé les vaches et les brebis, les bonnes là, pour les sacrifier à Dieu. Donc, il pensait adorer Dieu en sa manière. Dieu lui dit, il faut éliminer. Lui dit, non, je les ai gardés pour te donner en sacrifice. Oh. C'est ainsi que beaucoup décideront de suivre Dieu en leur manière. Mais Dieu dit, mais ce n'est pas la manière que j'ai décidé pour toi. Lui dit, non, moi je connais bien comment te suivre Dieu. Calme-toi. Oh. Dieu dit, bon, c'est la séparation. C'est Dieu qui doit fixer comment tu dois le suivre. Ce n'est pas toi. C'est lui qui doit fixer. Moi, quand j'entends des gens dire « je dis « oh ». Ce sont ces disciples-là qui ont dit « non, sa parole est dure. Je décide de ne plus le suivre. Je !» Bien-aimé, c'est Dieu qui décide de la manière dont on doit le suivre. Et cette manière est fixée dans la Bible. Un jour ou l'autre, le raisonnement, si tu ne fais pas attention, tu auras ta marche avec Dieu. Ou tu auras l'œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie. Un jour ou l'autre, nous lisons dans Genèse 22. Là, nous avons donné des exemples de gens qui ont manifesté dans leur vie, qui ont laissé le raisonnement l'emporter sur la simplicité de la foi et l'obéissance. qui ont cherché à saisir Dieu par la chair. Vous savez, il y en a qui ne sont pas forcément directement opposés à Dieu, mais ils ont cherché à contrôler Dieu. Ils ont cherché à maîtriser Dieu. Mais on a lu dans 1 Corinthiens 2,14, la chair ne peut pas saisir les choses de Dieu. Donc, quand tu veux contrôler Dieu, maîtriser Dieu, forcément, tu marches par la chair. Parce que le Seigneur nous a dit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc, même quand tu es pasteur chrétien, tu veux contrôler Dieu, tout maîtriser, c'est la chair. Parce que tu n'es plus instrument, mais tu veux devenir maître, c'est la chair. Et, forcément, ta chair échouera de comprendre Dieu. Et donc, un jour, tu seras en proie à un raisonnement à côté, à gauche, la foi et l'obéissance à la parole à droite. Il y aura un choix à faire. Et si l'orgueil est là, tu choisiras le raisonnement. Et ça sera la fin. Nous lisons Genèse 22. Il est écrit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Abraham n'a pas arrêté sa marche avec Dieu à cause de la foi et de l'obéissance. La foi, pourquoi ? Parce qu'il croyait que Dieu allait ressusciter son fils. C'est écrit dans Hébreux. Abraham sacrifiait son fils se disant que Dieu allait ressusciter son fils. Ça, c'est la foi. L'obéissance, c'est qu'il allait quand même sacrifier son fils. Bien-aimé, quel ordre bizarre ! Quel ordre bizarre qu'on donne à Abraham par Dieu. Bien-aimé, sachez-le, nous ne sommes pas exceptionnels. Ce qu'a vécu Abraham, nous tous, nous allons vivre ça. Tu te dis chrétien, tu vas vivre ce qu'Abraham a vécu. Tous, un jour, nous serons devant une situation bizarre, mais dont on sait que c'est la volonté de Dieu. Le côté bizarre est là, mais le côté savoir, être certain que c'est Dieu, il y a aussi ce côté-là. Abraham était certain que c'était la voix de Dieu. Ça, c'est le bon côté. Mais l'autre côté, c'est quoi? Mais Dieu se contredisait. Parce que d'un côté, Dieu avait dit que c'est par Isaac qu'Abraham aura des descendants. Mais comment le même Dieu va dire qu'on tue encore Isaac? Il y avait contradiction. Et là, les gens orgueilleux, ton raisonnement va entrer en scène en ce moment-là. Oh, mais il y a contradiction là. Et beaucoup sont là. Oh, mais l'apôtre Paul a dit, les gens ont vu ici, ils n'ont pas entendu. Là-bas, il a dit, les gens ont entendu, ils n'ont pas vu. Oh, mais avec ton oh là, tu ne peux même pas t'empêcher de mourir. Tu vas faire le oh jusqu'à te fatiguer, faire une musique. Mais tu mourras, nous on continuera toujours à croire à la parole de Dieu. Les gens, Paul, Sartre ont fait les « Ah !» Ils ont fait des gros livres pour dire que Dieu n'existait pas. Ils sont dans le tombeau. Les églises continuent toujours. Les Russes, ils ont fait le « Ah !» Communisme, pas de Dieu. 50 ans, le communisme est fini. Ils sont revenus au capitalisme. Nous, on continue toujours à croire en Jésus. Les « Ah !» ne vont jamais sauver quelqu'un. Ces gens sont là « Ah !» Pourquoi les guerres? Mais qui es-tu, toi? Tu te poses des questions comme si tu étais assis sur une planète en train de regarder la Terre. Non. Tu es sur la Terre comme un grain de sable. Incapable même d'affronter les lions. Moi, on était au parc zoologique, on était loin des grillages. On avait peur des lions. Mais toi, tu veux faire le « Oh !» Mais va affronter les lions, bien-aimé, si tu es vraiment un homme ou une femme. On te laisse dans la forêt équatoriale, la jungle. Allez, débrouille-toi avec les hauts, avec les explications. Einstein, bien-aimé, les raisonnements, ils sont traîtres. En ce moment-là, les raisonnements allaient dire à Abraham, il y a contradiction. Ce Dieu-là se trompe. Il a dit que c'est ta descendance et maintenant il change. Rebelle-toi. La femme de Job a dit, oh, maudit Dieu et meurt. Écoutez le conseil. On tue, les enfants de Job meurent. Les troupeaux de Job meurent. Les maîtres des raisonnements viennent là, c'est moi. Ah, Job, en tout cas, ce que tu vis là, maudit seulement Dieu et meurt. Mais elle va continuer à vivre, que Job maudisse Dieu et meurt. Oh, bien aimé. On est là. La voix même que Dieu t'a donnée, tu commences à l'utiliser pour contester Dieu. L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu l'utilises maintenant pour dire qu'il n'existe pas. Quelle méchanceté, quelle ingratitude, bien-aimé. Et Abraham est là. Première contradiction. Dieu avait dit Isaac, mais là, il contredit. Deuxième contradiction. Mais Dieu n'a jamais demandé des sacrifices des humains. Il commence. Ah, mais non, ce n'est pas possible. En plus, il aurait pu me demander de sacrifier un enfant d'un esclave que j'ai. Abraham avait beaucoup de serviteurs, beaucoup d'esclaves. Si vraiment c'était un sacrifice humain que Dieu voulait, il y a beaucoup d'enfants qu'on pouvait sacrifier dans ma tribu. Mais lui choisit mon fils et mon fils unique. Il y a un problème là. Il aurait pu même demander à ce que je sacrifie le premier, qui n'était pas de la lignée. Contradiction encore. Et là, Abraham a dit, obéissance et la foi. Dieu ne se trompe pas. Il m'a donné un ordre. Je vais accomplir. C'est vrai que cet ordre contredit des choses. Cependant, je crois que Dieu ne se trompe pas. Et à ce moment-là, la révélation est venue. Sûrement Dieu compte le ressusciter. La foi va te produire la solution à ton problème. Mais Dieu va te demander d'abord d'avoir foi. Il ne va pas te donner toujours la solution. Devant une situation, un problème bizarre, Dieu ne t'éclairera pas toujours avant que tu prennes la décision. Il te demandera d'abord de te soumettre à ce que tu as entendu comme étant sa voix. Et la Bible, c'est la voix de Dieu par excellence. Il te demandera de te soumettre d'abord à ce qui est écrit. Il te demandera de te soumettre à ce qu'il t'avait dit autrefois quand tu avais posé la question. Quand tu arriveras à cette situation, qu'est-ce que tu dois faire? Il te dira, mais je t'avais déjà répondu. C'est que tu dois faire la même chose. Et tu es sûr que c'est la voix de Dieu, mais c'est contradictoire. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Eh bien, Dieu te demande d'obéir. Et quand dans ton cœur, tu décides, tu dis, je veux obéir. Mais le diable dit, mais oui, mais si tu obéis, mais tu vas tuer ton fils. Et le Seigneur te donnera aussi la réponse en ce moment-là. Quand tu as décidé d'obéir, le Seigneur après vient donner la réponse. Après, le Seigneur vient donner la révélation. Après, le Seigneur vient encourager. Quand Jésus-Christ luttait pour aller à la croix, il n'y a eu aucun encouragement. Il était en train de prier, il y avait du sang. Quand il luttait, il n'y avait pas d'encouragement. Dès qu'il a décidé qu'il irait, Dieu a envoyé un ange pour l'encourager. Nous serons toujours confrontés à ce genre de situation où notre raisonnement doit être vaincu, où notre raisonnement semblera avoir raison sur Dieu et sa parole. Tu diras, mais oui, mais on m'avait promis telle chose par Dieu, mais où est-ce que ça se trouve? Oui, mais, il y aura des oui, mais. Mais dans ton cœur, tu dis, Dieu ne peut pas se tromper. Il y aura des situations, le diable va dire, non, là c'est exagéré, tu as trop souffert dans ta vie. Mais toi, tu vas te dire, mais je ne suis pas le seul. Jésus a souffert plus que moi. Si Jésus a souffert ainsi, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Moi, j'ai souffert. Mais quelque part, j'ai toujours eu le péché dans ma vie. Mais Jésus, qu'est-ce que lui a fait? Bien-aimé, dès que tu t'humilies, Dieu te donne l'explication. Dieu va nous amener dans des situations où l'orgueil va nous apporter un raisonnement bien monté pour dire, je sors de la voie de Dieu. Et comme je l'ai expliqué, tout le monde ne dira pas, je sors de la voie de Dieu. Tout le monde ne dira pas, je m'éloigne de Jésus. Mais on le dira d'une manière ou d'une autre. Et c'est la même chose. Certains diront, en tout cas, moi, je décide de faire telle chose. Certains diront, il faut relativiser la Bible. Il y a des gens comme Luther qui ont dit, la résurrection, ben, c'est spirituel. La résurrection de Jésus n'a pas eu lieu. Le Luther des États-Unis, là. Martin Luther King, c'est spirituel. Un jour, le raisonnement te trahira. Parce que ton raisonnement voudra contenir Dieu. Mais c'est clair, l'homme de la chair ne peut pas contenir Dieu. Un jour, ton raisonnement connaîtra ses limites. C'est pourquoi il faut saisir Dieu par l'obéissance et la foi. Dieu se rendra clair à toi. Tu saisis cette clarté-là et tu continues ta marche. Et à partir de la première clarté, tu saisis d'autres clartés et tu continues ta marche. Et la Bible est très claire. Tu crois en la Bible et tu continues ta marche. Ne change pas la Bible parce que tu sembles n'avoir pas eu satisfaction. Ne change pas la Bible. On ne peut pas changer la parole. Restons fermes là-dessus. Abraham est connu aujourd'hui comme le père de la foi parce qu'il a compris ça. Que Dieu, c'est l'obéissance et la foi. Le raisonnement est traître. Le raisonnement va te faire oublier que tu as eu Isaac alors que tu avais 100 ans. C'était un miracle. Mais au moment où Dieu donne son ordre, le raisonnement va te faire oublier que cet enfant-là a été donné directement par Dieu. Ça, c'est le raisonnement. Le raisonnement va te faire oublier ce que Job a dit. Job a dit à sa femme, ma femme, les choses dont on se plaint que Dieu a récupérées ou Dieu a détruit, ces choses-là, qui les a données? C'est lui. Il a donné, il a repris. Quand il avait donné, on était content. Maintenant qu'il reprend, on va maintenant se rébeller contre lui. Mais il n'a fait que reprendre ce qu'il avait donné. Et en ce moment, quand le diable vient avec ses raisonnements, il ne va pas te dire ça. Il va te dire seulement, il est méchant, il a pris tes enfants, mais il ne va plus, il va pas te rappeler que c'est lui qui avait donné ses enfants là aussi. Il va oublier de te rappeler qu'un tel jour tu devais te noyer, Dieu t'avait sauvé. Il va pas te rappeler tout ça. Il va insister sur ce qui va te déranger de suivre Dieu. Attention à nos raisonnements, bien-aimés. Dieu, on ne le saisit pas par les raisonnements. On le saisit par révélation. Et nous avons une révélation qui est très claire, c'est la Bible. N'attends pas les révélations la nuit. Lis la Bible. C'est ça la révélation de Dieu. Et en lisant, la foi germe dans ton cœur. Et tu t'adonnes à cette Bible. Tu restes. Je conseille souvent aux bien-aimés, avec Dieu, il faut faire un choix. Ou tu suis la Bible, ou tu ne suis pas. Si tu suis la Bible, accepte tous les désavantages qui viendront sur ton chemin. Au bout, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Dieu est fidèle. Abraham a accepté. Il a dit, bon, je vais tuer mon fils. Parce que c'est l'ordre de Dieu, bien-aimé. Jackie Poulinger a accepté. Il a entendu la voix de Dieu. Elle a entendu la voix de Dieu qui lui dit, va, va. Il est parti voir quelqu'un pour lui dire, on m'a dit d'aller. On lui a dit, mais attends, qu'on te dise où aller. Mais elle était dérangée parce qu'elle sentait qu'elle devait partir. Elle veut voir un autre pasteur. On lui dit, va. Mais le pasteur dit, bon, puisque tu sens que tu dois partir et on ne t'a pas dit où aller, ben, va n'importe où. Mais va quand même. Vas-y. Et elle a pris le billet du bateau le plus long jusqu'en Chine extrême. Et le bateau, quand ça s'est arrêté à Hong Kong, elle a senti que c'est là qu'elle devait descendre. Sans argent, rien qu'avec 100 dollars, une fille de 23 ans, avec tous les risques, avec la beauté qu'elle avait, 100 dollars. Mais arrivée à Hong Kong, on l'envoie où? Dans les quartiers pavillonnaires? Non. On l'envoie dans la cité interdite, qui fait même peur à la police. Elle dit, bon, c'est ma mission. Une fille dans la cité interdite, de 23 ans, avec tous les mafieux, les brigands, les drogués. Et Dieu l'utilise puissamment pour sauver des drogués. Mais ça a traîné 2 ans de galère, 2 ans d'inconversion des gens. Mais elle savait que c'était ça son appel. Elle avait bien entendu la voix de Dieu, elle reste. Et 2 ans après, Dieu l'a utilisé plus que les organisations qui étaient là, ça faisait des dizaines d'années. Des organisations avec tous les moyens, et elle toute seule. Mais avec la parole de Dieu et la promesse divine, avec la fidélité, bien-aimée. Quand tu sais que Dieu t'a dit, tu continues. Parce que Dieu ne se réunit pas. Le raisonnement tuera ton appel. Comme ça, tu es l'appel de Saül. Le raisonnement a tué l'appel de ses disciples-là. Quand Jésus a dit, il faut me manger, ils ont dit, non, 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 on ne voit pas avec quel condiment on va le manger. On ne voit pas comment on va le couper, ça va commencer comment. Non, ils ont voulu raisonner pour comprendre Dieu. Mais on ne peut pas raisonner pour comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, on doit s'humilier. Accepter d'abord. Le voleur à la croix, il y en avait 2. Le raisonnement qui est là, c'est quoi? Oh, s'il est Dieu, qu'il se sauve lui-même. Au début, les 2 avaient les mêmes raisonnements. Quand vous lisez un autre évangile, on dit que les 2 voleurs attaquaient Jésus-Christ, injuriaient Jésus. Leur raisonnement était simple. Mais il prétend qu'il est fils de Dieu. Comment il se retrouve là? Il prétend qu'il est fort. On a appris qu'il a fait des miracles. S'il est Dieu, mais qu'il se sauve lui-même. Et il y a un même qui a rajouté et qui nous sauve aussi. Donc, en même temps, tu critiques, mais vous voyez les gens qui sont malhonnêtes. Quand la situation change, ah, Dieu est bon. Donc, Dieu est fort. Mais en même temps, ils sont vigilants pour le renier à tout moment, bien-aimés. Non! Et ce voleur l'a dit, mais sauve-toi et sauve-nous après. Donc, il y a un certain équilibre. Bon, si ça marchait, qu'il nous sauve en même temps. Oh, les raisonneurs ingrats et méchants. Non, ils sont là en train de tester. Ils viennent quand même à l'église, on ne sait jamais. Vaut mieux y aller quand même, on ne sait jamais. mais à la maison, applique la parole. Ah, ce truc-là, c'est le pasteur, il exagère. Oh, c'est lui dans la Bible, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, lui, il est né même, il est né au 20e siècle, mais la Bible, déjà, ça existe depuis longtemps avant. Ah, l'ancien, il exagère. Oh, mais ce n'est pas l'ancien. On dit, la sœur Intel, une extrémiste. Non, elle a lu la Bible. Elle a lu la Bible. Elle est née au 20e siècle. La Bible existe bien avant elle. Bien aimée. Et on commence à décider. Ah, ils exagèrent. Moi, je vais suivre comme ça. Oh, mais toi, tu vas suivre comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas suivre? Suis la Bible. Bien aimée. Les deux voleurs. Le raisonnement était facile. Si Jésus était fort, qu'est-ce qui se... Pourquoi il est là? Mais à un moment donné, vous voyez bien aimé que tout dépend de l'humilité. Mais à un moment donné, c'est ma deuxième intervention bien aimée aujourd'hui. Tout dépend de l'humilité. À un moment donné, l'un d'entre eux a été humble pour reconnaître quoi? Qu'il était voleur. À un moment donné, tu dis non. Moi, je suis voleur. J'ai volé. J'ai fait des mauvaises choses. Je ne suis pas à la bonne place pour donner des leçons. À un moment donné, c'est l'humilité qui rattrape ceux qui sont sauvés. Les apôtres ont dit, ah, non. De notre vivant, on n'a jamais vu quelqu'un comme Jésus. Ce qu'il a dit, on n'a pas compris. Mais il est le seul qui peut nous amener au ciel. On a vu ça, 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 ça. On a entendu ça, ça, ça. Il est le seul. Un voleur, à un moment donné, s'est humilié. Il a dit, oh, on n'a pas le droit de parler du mal de cet homme. Parce que nous, on a volé. On a été brigands. Mais cet homme n'a pas volé, n'a pas frappé, n'a pas injurié, n'a pas détesté. C'est injuste. L'humilité va te voir faire les choses claires. Des choses qui étaient là devant toi depuis longtemps, mais que ton orgueil, à cause du raisonnement, masquait. Mais dès que tu t'humilies, tu dis non, je suis petit. Vous savez, on peut faire des débats. À un moment donné, tu arrêtes les débats. Tu dis, mais Dieu existe, non? Pourquoi passer 10 heures de temps à faire un débat pour convaincre quelqu'un, pour discuter des choix par rapport à Dieu? Dieu n'a qu'à parler. À un moment donné, tu t'arrêtes. Tu dis non. Même si je me fâche, est-ce que mon fils sera guéri? Même si je renie Dieu, est-ce que ma mère va ressusciter? Même si je renie Dieu, est-ce que je vais avoir de l'argent? À un moment donné, tu réalises que ta colère, comme c'est écrit dans Jacques 1:20, la colère de l'homme ne va pas faire la justice de Dieu. Ton raisonnement ne va rien changer. Que tu renies Dieu. Jean-Paul Sartre a fait le livre. L'être et le néant. Mais est-ce que ça a changé la foi en Dieu, dans le monde? Non, les gens continuent à croire en Dieu. Vous êtes assez jeunes pour avoir entendu parler de Da Vinci Code, ou plutôt assez âgés, plutôt. La plupart d'entre nous ici a entendu parler de Da Vinci Code pour démontrer que Jésus a eu des femmes, tout, tout, tout. Mais est-ce que ça a changé la foi en Dieu? Au contraire, les églises continuent à se remplir. Les gens continuent à se convertir. Ça a été un coup de poing dans le vide. C'est pour nous dire quoi? Ton raisonnement ne changera pas le cours des événements. Humilie-toi pour reconnaître ça. Mon raisonnement ne va pas changer le cours des événements. Je suis tout petit. C'est à moi de chercher à ce que Dieu se révèle à moi. Bien-aimé. Attention au raisonnement. Ça va nous freiner un jour ou l'autre. Vous savez, moi, j'ai fait le choix suivant. j'ai fait le choix. Lorsque je sens en moi monter un raisonnement pour contredire Dieu, j'ai fait le choix d'obéir aveuglément à la Bible et étant confiant que Dieu m'expliquera plus tard. J'ai fait le choix d'obéir à ce qui est écrit. Les gens vont venir dire, ah oui, mais tu ne vis pas les actes des apôtres. Bon, je ne vis pas les actes des apôtres selon toi. Selon moi, je les vis chaque jour. Je vois comment Dieu me nourrit, Dieu me protège. Je vis les actes des apôtres. Je paye mon loyer. Je vis les actes des apôtres. Je ne manque de rien. Je vis les actes des apôtres. Je vois des conversions, des gens qui étaient anti-Dieu, qui deviennent pour Dieu. Je vis les actes des apôtres. Mais les gens vont vouloir que tu vives les actes des apôtres comme eux, ils veulent. Toi, suis la Bible. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Tu crois en ce que Jésus a dit? Oui. Alors tu vis déjà les actes des apôtres. Et le jour où Dieu décidera que des paralytiques s'élèvent, ils s'élèveront. Ce n'est pas toi qui vas décider ça. Quand la Pentecôte est arrivée, quand il y a eu le feu qui est descendu du ciel, ce n'est pas les apôtres qui ont décidé ça. C'est Jésus qui avait décidé ça. Ce n'est pas les prières des apôtres. Parce que Jésus leur avait déjà promis que attendez à Jérusalem, une puissance viendra. Vous verrez ce qui va se passer. Ils ont prié par fidélité, par amour pour Dieu. Mais Dieu déjà avait prévu tout cela. Quand la puissance est descendue sur Corneille, il a commencé à parler en langue. Ce n'est pas Pierre qui a décidé. Pierre prêchait la parole et le feu de Dieu est descendu, bien-aimé. Nous n'avons pas décidé des miracles. Nous n'avons pas décidé de comment Dieu va nous utiliser à notre époque. C'est Dieu qui a déjà prévu comment t'utiliser en Normandie. Dieu a prévu comment t'utiliser à Stockholm. Dieu a prévu comment t'utiliser à Kinshasa. C'est Dieu lui-même qui a prévu comment il va t'utiliser. Toi, sois à l'écoute de Dieu, obéissant et aie la foi et tu verras la gloire de Dieu. Les circonstances que tu vis, si tu es vraiment chrétien, tu dois croire que c'est Dieu qui les permet. Puisque si tu es chrétien, c'est Dieu qui tient ta vie entre ses mains. Alors forcément, tu dois réagir comment ? Par la foi et l'obéissance. Comme Job, comme Abraham. Et c'est ainsi que tu continueras ta vie chrétienne. C'est ainsi que tu réussiras l'appel que Dieu a fixé pour toi. Si tu sais obéir, garder la foi. Et il est écrit dans Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Par la foi, bien-aimé. Même si les apparences sont contraires à ce qui est écrit. Ce qui est écrit est plus vrai que tes apparences. C'est ça la réalité, bien-aimé. Donc réveillons-nous, bien-aimé. Attention aux raisonnements qui peuvent tuer notre foi. Revenons à l'obéissance toute simple. Faisons le choix. Devant des contradictions apparentes, faisons le choix de croire en ce qui est écrit. Et nous verrons la délivrance du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle de te faire confiance et de t'obéir et de ne pas nous éloigner de toi par des faux raisonnements. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous en parle. Les faux raisonnements nous amènent à nous éloigner de toi. Les raisonnements qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent du moi, qui viennent de l'orgueil humain, à cause des difficultés, à cause des déceptions, qui nous amènent à prendre des décisions, qui arrêtent notre appel et qui peuvent parfois arrêter notre marche chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à être comme des enfants qui obéissent, même lorsqu'ils ne comprennent pas. Mais tant qu'ils réalisent que c'est la voix du Maître, et aujourd'hui nous avons la Bible pour vérifier que la voix que nous avons entendue vient de toi. Quand nous avons fait cette vérification, Seigneur, on sait que c'est ta voix qui nous a parlé. Aide-nous à marcher avancer, même si les circonstances, les situations environnantes nous seraient défavorables, que nous continuions toujours à marcher, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur, merci de nous aider à te suivre par la foi et l'obéissance. Et non par des faux raisonnements, ni par le raisonnement humain, parce que ce qui est de l'homme ne peut pas capter ce qui est spirituel. Que nous puissions saisir les occasions, que tu te révèles à nous, pour marcher avec pleine foi, pleine obéissance. Et nous croyons que nos chemins seront lumineux et glorieux. À toi la gloire. Merci pour ton sacrifice à la croix, qui est notre plus grande révélation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quoi qu'il nous arrive, nous voulons nous souvenir que si Dieu a livré ainsi son Fils, c'est que notre salut est certain. C'est que notre délivrance est certaine. C'est que notre bonheur est assuré. Et que tout concourt réellement pour le bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.